Deux lectures ce matin, les deux dans le Nouveau Testament. Je ferai une première lecture dans l'épître de Jacques et je lirai tout le chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à son image. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et puis on aura une seconde lecture dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 14 à 23. Jésus appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les jalousies, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Notre Dieu, ta parole est source de vérité, transforme-nous par ta vérité. Aujourd'hui s'ouvre donc la nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent, temps de préparation pour accueillir la lumière qui vient dans le monde. Et il s'agit aujourd'hui de commencer par purifier en nous ce qui doit l'être. tant dans notre attitude que dans nos paroles. Alors il faut oublier les interdits alimentaires, hein, ce qui peut rendre impur, ce ne sont pas telle ou telle nourriture, ce sont plutôt les paroles inconsidérées et les paroles blessantes. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Et peut-être d'abord, qu'est-ce qu'être impur ou pur? Le pur et l'impur, c'est l'affaire du Lévitique et de toutes ces lois un peu dépassées. Peut-être que c'est ce qui vous vient à l'idée spontanément quand on parle de pur et d'impur. Mais justement, ce sont ces lois de la première alliance qui font les lois de la nouvelle. Tout le judaïsme du temps de Jésus repose sur ces lois du Lévitique et sur ces lois de la première alliance. Alors, puisque nous devons parler de pur et d'impur ce matin, allons-y gaiement et résolument. On le fait rarement, on peut peut-être se lancer une fois de temps en temps. Juste quelques remarques. Déjà, dans la Bible, Dieu seul possède la pureté parfaite. Et le peuple, afin de devenir digne de lui, doit se purifier. Il doit sans cesse se purifier. C'est là le sens spirituel. À l'origine, il s'agissait donc d'un sens essentiellement culturel et cérémoniel. Et on l'imagine, avec le temps, ça a provoqué un nombre incalculable de rites, de purification par l'eau, par le feu, par les jeûnes, par le sacrifice. Ça s'est développé comme ça au fil du temps. Et puis le christianisme, bien derrière, nous dit que ce que Dieu veut, c'est un cœur pur, et qu'on ne peut y arriver qu'avec l'aide de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un cœur pur? Alors toujours selon la Bible, ce serait un cœur qui sait rester propre, éviter toute souillure, corruption, tout ce qui viendrait l'obscurcir, jalousie, critique, calomnie, envie, voilà, condamnation, jugement, préjugé, enfin toutes ces choses qui viennent noircir notre cœur. Et qui ne connaît pas ce genre de choses en lui? Un cœur pur, selon la Bible, c'est donc le caractère de celui qui vit dans la droiture, l'intégrité, qui vit sans masque, sans façade, sans compromission avec lui-même. Mais attention, le cœur, dans la pensée hébraïque, ce n'est pas du tout le siège des sentiments, de l'émotion, vous savez, de l'amour sentimental, tel que nous le connaissons. Non, c'est plutôt le siège de la décision, libre et ferme. Aimer Dieu de tout son cœur ne signifie donc pas se laisser envahir par une émotion fabuleuse, mystique pour Dieu. Il ne s'agit pas de ça du tout. Hein, ça signifie plutôt prendre la décision ferme de se mettre à l'écoute de l'Esprit pour inspirer sa vie, pour entrer dans les vues de Dieu pour ce monde et pour nous-mêmes. Seulement, à l'inverse de l'enseignement des prophètes, la doctrine sacerdotale, la doctrine des prêtres, a mis en place une quantité considérable de prescriptions ayant pour but de rendre pur ou de rester pur ou redevenir pur. C'était en général des prescriptions alimentaires, vestimentaires ou toutes ces petites lois qui accompagnaient la vie quotidienne, notamment tout autour du Shabbat. Toute la question est alors de savoir si, à l'époque, ces purifications réglementaires ont servi à quelque chose. Est-ce que Dieu a manifesté qu'il s'en satisfaisait? Alors c'est difficile, bien sûr, d'entrer dans la tête de Dieu, mais on peut quand même en douter, au vu des catastrophes, invasions, exils, destructions de toutes sortes qu'a connu le peuple d'Israël, il semblerait que Dieu ait été plutôt fâché. Donc, ou bien ces rituels, ces prières n'ont servi à rien, ou bien Dieu n'est pour rien dans les heurts et les malheurs des hommes. Mais bon, là, chacun a son point de vue là-dessus, et je vous laisse avec ça. Alors oui, Jésus dit que les paroles qui sortent de la bouche rendent impures. Et elles peuvent rendre impures aussi bien celui qui les profère que celui qui les reçoit, celui qui les entend. Pendant des siècles, l'idéologie religieuse dominante a fait le grand écart entre l'exhortation à une vie édifiante, pure, formidable, parfaite, et de l'autre côté, les méthodes employées pour asseoir son autorité, pour asseoir son pouvoir. Et dans ce cadre, quelles paroles alors pouvaient, peuvent toujours rendre impures celui qui les reçoit, celui qui les entend, venant de l'Église? Il y a déjà tout un discours de l'Église sur le péché, l'autoflagellation, l'affirmation éternelle de l'éternelle culpabilité de l'homme à partir du moment qu'il respire, ça y est, il est coupable. Et ce sont ça les postures quasi païennes, parce que tellement éloignées de ce que Jésus a enseigné sur Dieu, qui montrent l'homme plutôt toujours digne de son amour, sans avoir rien à faire, toujours digne d'être gracié par Dieu, d'être accompagné par Dieu. Le Dieu que présente Jésus est toujours un Dieu d'amour. Ce qui peut rendre aussi impur, ce sont toutes ces déclarations anxiogènes aux autres. Faites-leur peur et tout ira bien. J'aimerais vous lire une déclaration qui est attribuée à Hermann Göring au procès de Nuremberg. Je vous lis ces quelques mots. « La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. Si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez. » Et voilà, dans notre histoire, beaucoup détenant une autorité morale, intellectuelle, politique, voire spirituelle, ont souvent fait des déclarations destinées à faire peur. Mais voilà, la Bible dit le contraire. La Bible dit « n'ayez pas peur ». Elle le dit même 365 fois. Il y en a qui ont compté, donc une fois pour chaque jour, quasiment. Et on a aussi Jésus qui, dans les évangiles, insiste bien sûr sur l'espérance, qui est tout à fait le contraire de la peur. Alors, il y a eu aussi tant d'annonces de la colère de Dieu à travers l'histoire. Jean-Baptiste, le premier peut-être, avant même que Jésus arrive, qu'il commence son ministère, on a déjà Jean-Baptiste. Il invitait au baptême pour éviter de subir la proche colère de Dieu. Et comme lui, il y a eu de nombreux prêcheurs qui ont fait peur en menaçant ceux qui les écoutaient. Et du coup, dans cet élan, il les incitait souvent à des attitudes idolâtres ou superstitieuses, des pèlerinages, des flagellations, des prières adressées à des symboles ou à des statues, que sais-je. Le Moyen-Âge, en tout cas, était très, très friand de ce genre de pratiques, et on peut même en discerner encore certaines aujourd'hui, ici ou là, dans notre monde. Vous savez, on a l'exemple, par exemple, je ne sais pas si vous avez ça en tête, parce que je crois que c'est plus les années 80-90, c'était l'évangéliste américain qui hurle quasiment dans leur poste de télé, qui font des appels à la conversion et à offrir son cœur à Jésus et toutes ces choses-là. Mais ici même, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Si vous allez juste là, vers Oxford Circus, ça vous est certainement déjà arrivé de tomber sur ces prédicateurs qui vocifèrent comme ça, qui engueule presque le passant qui passe et qui lui promet tous les enfers s'il ne s'arrête pas, ou s'il ne fait pas ci, ou s'il ne fait pas là. Mais d'après vous, qu'est-ce que pense cet homme ou cette femme qui passe par là à s'entendre invectiver comme ça par l'Évangile? À mon avis, il doit se dire, mais un Dieu comme ça qui va m'engueuler pour ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, non merci, et il passe son chemin. Eh bien voilà une parole qui est comme une malédiction. En fait, cette réaction du passant de partir, c'est le fruit d'une parole impure, alors qu'elle partait d'un bon sentiment, je peux imaginer, du prédicateur. Une autre parole impure, c'est l'incitation au retrait du monde, au retrait des autres. Une incitation au retrait complet de, par exemple, la vie des ermites, qui partent dans leur coin ou dans les retraits de vie communautaire, à partir du moment où on se sépare de ce qui est à l'extérieur. Pas bon, ça. Déjà, on imagine mal que Jésus de Nazareth, ce Galiléen qui était toujours sur les routes, aurait pu encourager d'une manière ou d'une autre au retrait ou au monachisme, quel qu'il soit. Non, Jésus n'est pas un ascète. On va d'ailleurs lui reprocher de ne pas jeûner ou de faire des repas avec des hommes et des femmes de mauvaise réputation. On va même le traiter de glouton. C'est dans la Bible, pas moi. Et il parle de Dieu au cours des repas, il fréquente les mariages, les fêtes. En fait, il va situer tout son discours sur Dieu au cœur de la vie quotidienne et non pas dans une retraite quelque part, dans une montagne ou un désert. Et puis, il y a les paroles qui blessent la personne pour elle-même. Toute parole blessante toujours désagréable à entendre. Mais s'il y en a qui peuvent nous aider à nous faire grandir, certaines peuvent laisser une trace négative durable dans nos existences. Celles qui font douter de soi, celles qui découragent, celles qui apportent un sentiment de culpabilité, celles qui poussent peut-être à s'auto-dénigrer, etc. Et l'Église elle-même a délivré tant de ces paroles blessantes au cours des siècles. Eh bien, une Église qui prononce de telles paroles, de tels anathèmes, de tels jugements, se rend elle-même impure. Si on parcourt l'interminable liste des persécutions, bûchers, exclusions, condamnations, mises à l'index, que sais-je, que les Églises ont prononcées, et continuent parfois de prononcer, on voit là de manière évidente que ces attitudes agressives et intolérantes ne sont en fait pas autre chose que la signature de leur propre faute, de leur propre impureté. Et c'est pourtant une attitude qui a traversé les siècles. Tous les courants l'ont eue, toutes les foi religieuses y sont passées. Il n'y en a pas une qui y échappe. On pourrait citer par exemple un Martin Luther qu'on a préféré renvoyer hors de l'Église, qu'on a préféré exclure plutôt que de changer. On peut penser aussi à l'exemple de Baruch Spinoza, qui a été exclu de la synagogue en 1656 et qui, depuis lors, est considéré par le judaïsme comme une espèce d'indésirable. Loin de l'athée qu'on lui a reproché d'être, il propose juste une nouvelle méthode de lecture qui ne prend pas en compte la tradition, qui voit directement le texte. C'était ça qu'il proposait, de s'intéresser à la Bible directement dans le texte sans avoir à reposer sur tout ce qui précédait de réflexion là-dessus. Mais non, voilà, une attitude vraiment de la synagogue qui nous rappelle en tout cas ce que peut-être ces exclusions et qu'on a connues aussi dans notre christianisme. Dernier exemple de la parole qui rend impur son auteur, peut-être le silence. En général, le silence nous épargne bien des tracas inutiles, mais il y a aussi des silences coupables, des silences qui tuent. Celui qui sait quelque chose et qui ne le transmet pas, celui qui tait une vérité pour se protéger ou pour assurer son pouvoir, eh bien, la Bible dit que celui-là est impur. Ce silence-là est coupable. Alors très bien, nous avons fait tout un petit tour de ces exemples de choses qui ont pu rendre l'Église même impure. Et Jésus nous dit que le danger, l'impur, ne vient pas de ce qui entre en nous, mais de ce que nous en faisons, à savoir de ce qui en sort. Nos paroles peuvent être impures dans le sens où elles peuvent vraiment faire mal et heurter, même si ce n'est pas notre intention au départ. Certains qui ont un tempérament un peu fort, lorsqu'ils sont en colère, n'ont pas vraiment de filtre lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils discutent, lorsqu'ils répondent. Mais quand nous laissons notre langue envoyer des pics, avant même que nous ayons pris le temps de penser, c'est en général notre ego qui répond, notre ego qui a été froissé, et ce n'est pas notre fond, ce n'est pas notre moi profond qui, lui, est plutôt... sa vocation, c'est de bénir et non pas de maudire. Celui qui maudit, qui répond tout de suite et qui attaque, en général, c'est notre surface, c'est l'écho, notre ego et notre façade, celle qu'on présente au monde. En fait, l'Écriture veut juste nous en rendre conscients. Mais alors, comment faire pour apprendre à contrôler ce petit membre que dénonce Jacques dans sa lettre ? Déjà, au moins pour éviter les paroles toxiques, toujours s'imposer d'attendre au moins 10 secondes avant de répondre. Une loi toute simple. Ça peut paraître long, ces 10 secondes, surtout à notre ego très impulsif, qui a tout de suite envie de rentrer dans l'arbre de l'autre. Mais justement, ça peut nous donner le temps d'une parole utile et bienveillante, une parole qui ne blesse pas. Ne jamais prendre de grandes décisions sous le coup de la colère. Ne rien promettre sous le coup de l'amour. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il s'agit d'exercer à retenir sa langue lorsque, à l'intérieur, le cœur est agité. En général, on prend des mauvaises décisions dans ces moments-là. Voilà, pour éviter les déconvenues, il s'agirait de réaliser que voilà, sa langue, c'est un peu tout ça, et bien plus encore. Hein. À l'inverse, pour garder nos oreilles et notre écoute vigilante, il y a toujours les trois passoires de Socrate qui s'intéressent à la vérité, à la bonté, à l'utilité d'une parole partagée sur une personne, X ou Y, sur un sujet. En gros, ce que tu vas me dire de telle personne, est-ce vrai? Est-ce une bonne chose? Et est-ce utile? Quand nous-mêmes nous observons nos paroles avant de parler, on peut réaliser combien simplement passer nos mots à travers ces trois passoires pourrait déjà nous préserver de bien des problèmes de ce que la Bible appelle les paroles impures. Ça pourrait nous les éviter 9 fois sur 10. Et si nous observons attentivement ce qui se passe en nous, alors nous pouvons discerner, avec un peu d'habitude, qui parle en nous. Est-ce cette parole qui part vraiment de notre fond, qui part de nous-mêmes, de notre moi profond? Ou est-ce à partir de notre surface, de notre masque, de notre ego qui a été froissé, qui a été irrité? Et c'est bien de discerner la réponse à cette question toujours avant de parler, avant de répondre. Peut-être les 10 secondes sont là pour nous permettre de réaliser à partir d'où on va parler et qui va répondre à la personne qui nous a interpellés. Bref, ce ne sont là que quelques suggestions. Il y a bien sûr beaucoup de moyens de travailler à ce que la Bible appelle une conduite pure, à ses paroles pures. Mais je voudrais ce matin terminer par la suggestion de Jacques, qui semble prendre ce thème très au sérieux, hein, puisque il semble dire que c'est quelque chose à vraiment travailler en nous. Et je voudrais voir ce qu'il nous indique comme direction, ce qu'il nous pointe du doigt pour un monde meilleur. Il nous dit que si nous voulons vraiment la paix, alors il nous faut écouter la sagesse de Dieu. Voici ce qu'il dit. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de cupidité, de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors mes amis, en faisant un effort volontaire pour surveiller notre langue, soyons tous, chacun, chacune, de ceux qui recherchent la paix. Amen.